Ce matin? En forme comment? En forme 1 sur 8, 1 sur 10? Oui? Est-ce que c'est ouvert, ça? Ça ne fonctionne pas? OK. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez qui a donné le message il y a 2 semaines? Vous étiez là? C'est Stéphane. C'est Stéphane Demers qui a donné le message il y a 2 semaines, puis son sujet, c'était... Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez des ventilateurs? Il y en a qui tournent sur un bord, puis il y en a qui tournent sur l'autre. Ça a causé des conflits. Et il nous est arrivé avec le fait... le fruit de l'esprit apporte la paix, alors que les œuvres de la chair apportent des conflits. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire que les conflits sont... Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'avez jamais eu de conflit? Sinon, on va en avoir un matin. Moi, j'en ai un avec la bouteille. Il est là, là. Je vous invite ce matin à tourner dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Ce matin, j'aimerais apporter une réflexion sur ce sujet que nous rencontrons souvent dans la vie chrétienne. Une situation qui se vit depuis que l'homme est sur terre. Dans toutes les églises du monde, à travers les âges, les hommes et les femmes ont rencontré ce problème. Un sujet qu'à un moment donné, on rencontre dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque foyer, dans la vie de chaque personne. Et le sujet, bien évidemment, c'est les conflits sont inévitables. On entend souvent dire que ce n'est pas facile la vie chrétienne. Oui, ça va? Pas facile la vie chrétienne. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile la vie chrétienne? Moi, j'ai découvert pourquoi. Une des raisons qui nous rend la vie chrétienne difficile, savez-vous c'est quoi? On n'est pas encore mort, ouais, c'est ça. Mais c'est les autres. Le problème, c'est les autres. C'est les autres qui nous rendent la vie difficile. Comme, vous savez, on se méfie souvent des autres et on se fait beaucoup de mal avec ça. Je vous raconte une petite histoire qui m'a fait rire. C'est un gars qui s'en va à chasse, puis il s'en va, mais il ne pensait pas rencontrer ce qu'il a rencontré. Il a rencontré un lion. Il était à quelque part où c'est qu'il y a des lions. Et quand il a rencontré le lion, bien évidemment, il prend son fusil, puis hop, fusil barré, pas capable de tirer. Alors, il s'est dépêché, puis il est monté tout de suite, puis il a attrapé la deuxième branche de l'arbre. Il racontait ça à un de ses chums, après qu'il est revenu, puis... Il dit, quand il a vu ça, il dit, je suis monté sur la deuxième branche. Il dit, le tigre, lui, mais lui, il a monté sur la première. Puis il dit, toi, bien, j'ai monté sur la troisième. Puis il dit, le tigre, lui, il a monté sur la deuxième. Puis toi, je suis monté sur la quatrième. Puis le tigre, lui, il est monté sur la quatrième. Puis moi, je suis monté sur la cinquième. Puis le tigre, lui, il dit, coudonc, es-tu de son côté ou de mon côté? On se méfie souvent des autres. On se méfie souvent des autres et on se fait beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Parce que nous réagissons selon notre propre conception et non selon la perception de Dieu. La façon de voir, c'est un processus qu'on a à apprendre comment Dieu voit et voir comment Dieu voit. Dans un premier temps, on va voir 2 hommes de Dieu qui, dans Actes chapitre 11, Actes des Apôtres, chapitre 11. On va regarder un homme qui a appris à voir les choses comme Dieu les voit. Actes chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, en parlant de Barnabas, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignirent au Seigneur. Marquez le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Pourquoi Barnabas voit la grâce de Dieu et il y en a d'autres qui ne le voient pas? La réponse est dans le verset 24. Parce que c'était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Un homme spirituel. Qui était capable de voir comme Dieu voit. Lorsqu'il a entrepris le premier voyage avec l'apôtre Paul, on voit au chapitre 13 et verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et là, ils ont traversé l'île de Chypre, et après ça, ils se sont embarqués pour la Pamphylie, chapitre 13 encore, et le verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Et ça, on peut voir la fin du voyage au chapitre 14 et le verset 26. Chapitre 14, verset 26. Ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Au chapitre 15, là, on a tout un scénario, c'est un autre message, ça. On ne touchera pas à ça, mais il était venu des gens de la Judée, puis on dit, bon, regarde, c'est bien beau, tu acceptes le Seigneur par la foi, mais il faut que tu gardes, faut que tu fasses circoncis, puis toutes sortes d'affaires. En tout cas, ça a causé un paquet de problèmes, puis ça a duré longtemps. Mais quand ça a été résolu, ou à peu près résolu, là, ils ont décidé de repartir. Barnabas, il dit au chapitre 30, chapitre 15, chapitre 15, verset 35. Barnabas, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'il avait quitté depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas joints accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Un homme qui a appris à voir les choses comme Dieu les voit, malgré cela, Barnabas a vécu un différent avec l'apôtre Paul. Au verset 39, nous lisons que ce dissentiment fut assez vif. Ce dissentiment fut assez vif. Dissentiment, ça vient du mot paroxomos, qui est à l'origine de notre mot français paroxysme, c'est-à-dire à son plus haut niveau. Exaspération, irritation. Nous autres, en québécois, on dirait il a pété sa coche. Ça vous arrive, ça vous arrive des fois de péter votre coche? Lui, il a pété la sienne, en tout cas. Ça n'y arrive pas souvent parce que c'est un homme de Dieu, mais à un moment donné, l'irritation. Il a pété sa coche. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que les conflits qui ont amené les deux hommes de Dieu, c'est que les conflits sont inévitables. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons deux grands hommes de Dieu venir en désaccord en public. Campbell Morgan a dit, « Je suis reconnaissant de la révélation de l'humanité de ces deux hommes. Le fait que les Écritures nous rapportent leurs différends me rappelle qu'ils étaient des hommes comme nous. » Ils étaient des hommes comme nous. On va regarder maintenant ce qui est important. L'important est de bien gérer nos conflits. Pas des conflits. On est conscient, on en a tous eu, puis on va toujours en avoir. L'important, c'est de bien gérer nos conflits. Par des conflits, il y en aura toujours. Souvent, les conflits laissent des traces douloureuses, des blessures lentes à guérir. Alors, si vous avez la gâchette facile, attention. Il faut apprendre à gérer. Tant qu'à Paul et Barnabas, nous savons qu'il n'est pas resté... Ça n'a pas resté comme ça. Ils ont réglé leur conflit. Comment? On ne sait pas. Mais on sait que plus tard, Paul... En parlant, il dit, Paul parle de Barnabas avec la plus haute estime dans 1 Corinthiens 9-6. Et il parle de Marc avec une haute affection. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et Paul parle aussi dans Colossiens 4-10, Aristarque, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas, vous salue aussi. Alors, Marc était rendu avec Paul. Vous avez reçu des conseils au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez-le bien. La chicane est finie. Ils ont réglé leur conflit. Comment? Je ne sais pas, mais ils l'ont réglé. Et l'important, c'est de régler nos conflits. Vous savez, le Seigneur a permis que nous ayons cet incident écrit dans sa parole, sinon nous serions privés d'un enseignement pratique de grande valeur. Avez-vous déjà vécu des conflits? Ou est-ce que vous êtes en conflit présentement? Moi, je peux vous dire que la friction est inévitable. La friction est inévitable. Et la question est, comment allez-vous y faire face? Comment allez-vous y faire face dans la vie de l'Église, dans la vie de votre foyer, dans la vie de chaque personne? Comment vous allez faire face à ces conflits? Il ne faut pas s'attendre qu'un jour, il n'y aura plus de conflits. Parce que nous traînons notre humanité avec nous, il va toujours avoir des conflits. Mais, qu'est-ce qui cause la friction? Mais c'est l'action. C'est l'action qui cause la friction. Tant qu'il y aura de l'action, il y aura de la friction. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Le problème, c'est que nous nous frottons encore les uns les autres. Nous avons tous des personnalités différentes, des vues différentes, des objectifs différents. Il faut apprendre à canaliser nos capacités, apprendre à travailler ensemble, afin que tout le monde aille dans la même direction. On ne peut pas s'en aller un d'un côté, puis l'autre s'en aller d'un autre côté. Il faut apprendre à travailler ensemble. Sinon, ça fait du surplace. C'est comme les fans qui tournent. J'ai vécu ça, mais les fans qui tournent, déjà. Ils ont arrêté, nous autres aussi. On les avait arrêtés, nous autres aussi, parce que c'est en train de virer un conflit. Vous savez, apprendre à marcher ensemble, ce n'est pas simple. Parce qu'on ne voit pas toujours comment l'autre voit. Un des problèmes, c'est la communication. Il y a un homme, une fois, qui demande à un de ses voisins, il dit, « Peux-tu venir m'aider? » Il dit, « J'ai un fauteuil qui est coincé dans la porte. » Le voisin arrive, puis prend le fauteuil, puis il se met à tirer dessus, puis l'autre, il est à l'autre bout, puis il pousse dessus, puis il y en a un qui pousse, puis l'autre qui tire, puis ça. À un moment donné, il dit, « Ah, laisse tomber. » Il dit, « On n'arrivera jamais à faire rentrer ce fauteuil-là. » L'autre, « Ah, il dit, tu voulais le faire rentrer? » Il est important qu'on s'en aille dans la même direction. Philippiens 2 nous dit « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » Pas facile. Mais Dieu veut que nous marchions dans la même direction. Et nous retrouvons ce même principe-là dans 1 Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Tant qu'il y aura de l'action, il y aura de la friction. Pourquoi? Parce que la friction est inévitable. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se parler à cause des conflits. J'espère que ce n'est pas votre cas. Il y en a qui, ça fait des années qu'ils ne se parlent pas, puis ils ne savent même plus pourquoi. C'est un autre gars, c'est le même gars, il va voir un autre de ses voisins. Il dit. C'est-à-dire, son voisin vient le visiter chez eux, puis là, ils sont assis, puis genre, tout à coup, le facteur passe, puis là, une lettre dans votre toilette. Fait que le gars, il se lève, il va croquer la lettre, il amène ça, puis il rouvre la lettre, il regarde ça, il referme ça, il me dit en boîte. Son voisin, c'est ça, il a une feuille blanche. Il dit, qui t'a joué un tour? Il n'y a personne qui m'a joué un tour. Il dit, c'est mon frère qui m'écrit, ça fait des années qu'on ne se parle pas. Il faut se parler. Il faut dialoguer si on veut régler nos conflits. Vous savez ce que dit Romains 8, 28? Nous savons que toute chose, même les frictions travaillent pour notre bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça aiguise notre caractère. En tout cas, ça l'a aiguisé le mien. J'en ai eu des conflits. Il était un temps, moi, là, j'étais dans 21 comités. Fait que imaginez-vous qu'il y a des places qui s'apposent à serrer. Il a fallu apprendre à dialoguer, il a fallu apprendre bien des choses. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre qu'un jour, il ne faut pas croire qu'un jour, il n'y aura plus de fiction. Il va toujours en avoir. Parce que nous traînons notre humanité avec nous autres, il va toujours en avoir. Il y a un principe général qu'on trouve dans la parole, c'est « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » Demeurer ensemble, dans l'unité, ça, c'est le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais attention, Satan, il y a une autre stratégie. Satan, il y a une autre stratégie et c'est là que nous devons faire attention. Où est-ce que Satan travaille? Dans les bars? Dans les salles de danse? Dans les cinémas? Dans les salles de spectacle? Allez voir Boucardiouf? Non, voilà. Ils ont du fun pourtant. Satan ne travaille pas là. Où est-ce qu'il travaille, Satan? Dans l'Église. Satan travaille dans l'Église, dans les foyers. C'est là qu'est son champ de bataille. Nous pensons que le problème est avec les gens, alors que le problème est avec Satan qui se sert des gens. Et son plaisir, c'est de semer la discorde parmi les enfants de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas en discorde, c'est ainsi. Vous savez, tant qu'il y a de l'action, il y a de la friction. Afin que la friction devienne une fraction, il faut être en bonne santé spirituelle, il faut apprendre à gérer nos conflits, il faut demeurer dans l'unité, et cela s'applique à tous les membres, surtout les leaders, et vous devez agir d'une manière préventive. Et faites attention. Attention. Une querelle peut vous coûter votre témoignage acquis depuis des années. Une querelle peut vous coûter votre ministère, peut vous coûter votre vie conjugale, une amitié établie depuis des années. C'est négatif un peu, mais y a-t-il des solutions? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Une approche positive face au conflit? Eh bien oui. Comment éviter que la friction devienne une fraction? On va regarder quelques principes concernant cette question. On va vous poser des questions, supposez vous devez avoir les réponses. On va commencer avec la première question. Y aura-t-il toujours de la friction dans l'Église et dans les foyers? Bonne réponse. Chacun de vous a son petit programme et tôt ou tard, il va arriver des conflits, des différents intérêts. La chair à laquelle chaque croyant que nous avons, ça rend la friction inévitable. Deuxième question. Quelles sont les sources les plus fréquentes qui provoquent des frictions? Différence de personnalité. Attention que votre personnalité ne domine pas sur les autres. Différence de perspective. Chacun voit les événements de façon différente. Il y en a qui veulent rentrer le fauteuil, puis d'autres les veulent sortir. Il y en a qui veulent que les fans ils tournent comme ça pour faire descendre la colère, puis il y en a qui veulent qu'ils la fassent monter. Il y a toutes sortes d'idées. Chacun a son petit programme. Il est normal d'avoir des vues différentes, mais il est important que nous apprenions à travailler ensemble. Troisièmement, c'est la différence de but. Les objectifs, lorsqu'ils ne sont pas vus de la même façon, peuvent être la cause de nombreux désaccords. Question 3. Peut-on éviter totalement la friction dans l'Église? Bonne réponse. Évidemment, la réponse, c'est non. Sans aucun doute, elle va se produire parce qu'on est en action. Là où il y a de l'action, il y a de la friction. Si on ferait un club social, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de friction. Satan, c'est ça qu'il veut, Satan. Les chrétiens, il y a des chrétiens, là, ils font un petit club social. Ils évangélisent plus, ils ne font plus rien. Là. Puis ils sont très bien ensemble. Puis Satan, il les laisse tranquilles. Eux autres, ils ne mènent pas de bruit. Ça va bien. Mais une église active, c'est automatique. Satan, il va travailler pour amener le problème. Évidemment, il y a moins de conflits dans un club social, mais dans une église en fonction, il y en a. Quatrième question. Quelles sont les attitudes que prennent le plus souvent les gens face à la friction? Il y en a qui prennent une attitude défensive. C'est comme essayer de montrer que vous êtes sans blâme. Hein? Mais tôt ou tard, cette attitude-là va apporter de la friction. Il y a l'attitude agressive. C'est lui! C'est à cause de lui. Et puis, j'ai déjà vu ça, c'est typique ça. C'est vraiment, vraiment nous autres, agressifs. Mais il y a une autre attitude qu'on appelle l'attitude conciliante. Et retenez bien ce verset-là, il n'apparaîtra pas à l'écran. Ça dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante. Pleine de miséricorde. C'est la solution. Il faut être conciliant. Il faut être prêt à céder, à laisser. Laissez tes petites idées. Elle est bonne ton idée, je la sais, elle est meilleure que la mienne. Mais j'ai raison. Cinquième question. La friction peut-elle avoir un effet positif ou constructif sur l'Église? Oui ou non? Oui. Bonne réponse. Hey, vous êtes bon. 5/5. Oui, la présence de friction, c'est un signe que quelque chose fonctionne. C'est justement, c'est pour ça qu'il y a de la friction. C'est parce que ça fonctionne. Il ne faut pas laisser la friction accaparer toute notre attention et nous détourner du ministère qui est productif. Il faut faire ressortir ce qui est bien. Vous savez, je ne suis jamais allé en Afrique, moi. Mais j'ai lu beaucoup d'histoires. Et il y a une compagnie qui, fabriquait des souliers. Et puis, il avait entendu dire qu'il y avait une certaine peuplade qui, eux autres, tout le monde, il n'y a pas de magasin d'ouvert, là. Alors, ils ont envoyé deux vendeurs là-bas. Alors, il y a un des deux vendeurs qui arrive là, puis il commence à observer. Ça ne donne rien d'ouvrir un magasin ici. Tout le monde marque nu-pied. On ne vendra pas un soulier ici. Tout le monde marque nu-pied. L'autre, il regarde ça, il dit, ouais. Ben oui, mais tiens. On va en vendre. Tout le monde sont nu-pieds. Tout le monde a besoin de chaussures. Deux vues complètement différentes. Alors, il ne faut pas dépenser nos énergies au négatif, mais il faut penser au positif. Voir comment on peut en arriver là. Parce que la friction peut avoir un effet positif sur l'Église lorsqu'on apprend à bien la gérer. Et regardez ce que Dieu dit dans le Proverbe. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Quand on arrive à quelque part, on dit qu'il y a du sable dans l'engrenage, puis ça ne va pas bien. Là. Dieu n'est pas glorifié. Mais quand on en arrive à apprendre à bien gérer nos conflits, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Moi, je pourrais vous raconter, j'ai juste 30 secondes pour vous le raconter, mais on était en train de ça veut dire que je ne sais pas combien de réunions qu'on avait pour une construction, puis on était peut-être une dizaine autour de la table, puis à un moment donné, là, il y en a un qui a pété sa coche, puis en tout cas, hey, c'est moi le problème, m'en va! Comme il est arrivé dans la porte, je l'ai regardé, il dit, « Hey! C'est pas terminé! Ça te tente-tu de revenir? On va finir par prier. » Il est rentré tranquillement, puis tout le monde a prié. Quand on a fini de prier, il dit, « Est-ce qu'on continue? » Ouais. On a continué à régler l'affaire. En la fin, Dieu a été glorifié. Mais il y a des situations qui sont différentes. Proverbe 17, 14 nous dit, « Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Ça dit, « Laisse tomber. Cesse de te battre avec ça. Abandonne. » Ce n'est pas un bon combat. Il faut apprendre à combattre le bon combat, nous dit 1 Timothée 6, 12. Et j'aimerais que vous reteniez ces trois points-là. Combattre le bon combat, avoir une bonne relation avec Dieu, puis être en bonne santé spirituelle. Si vous avez ces trois ingrédients-là, les conflits vont se régler. Pas des conflits, sont inévitables, mais on va pouvoir les régler. Combattre le bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats. Avoir une bonne relation avec Dieu, pas une relation émotionnelle, une relation spirituelle. Et être en bonne santé spirituelle. C'est ce qu'on regarde le dimanche soir. On regarde ça avec un petit groupe en haut. On travaille là-dessus à améliorer notre relation avec Dieu. C'est le début. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à ce que notre relation avec Dieu soit améliorée, qu'on soit en meilleure santé spirituelle pour combattre le bon combat de la foi. Prions. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole encore ce matin qui nous rappelle que deux grands hommes de Dieu ont eu un conflit. Ce qui nous rappelle que nous, quand nous avons des conflits, c'est selon la chair, puis ça fait partie de notre humanité. On implore ta grâce, Seigneur, afin qu'on puisse apprendre à régler nos conflits, puis apprendre à marcher dans la même direction. Et cette grâce-là, Seigneur, on te la demande au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Bonne fin de journée.